En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
C'est l'histoire d'un écrivain bosniaque illettré en français qui rêvait de décrocher le Goncourt. L'histoire de Velibor Kolić commence comme une fiction. Elle a peut-être produit d'ailleurs pour de vrai un personnage de roman. Né en 64 dans un coin des Balkans traqué par l'histoire, la Bosnie, notre invité cultive un sillon littéraire fait d'humour, de désertion, d'effacement et d'oubli impossible pour Sarajevo. À l'occasion de la sortie de son nouveau roman chez Gallimard, « Guerre et pluie », En sol majeur ne résiste pas à rediffuser l'entretien que Velibor nous accordait en 2017, lorsqu'on feuilletait avec délectation ses névroses d'exilé linguistique. Manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons, qui aura d'ailleurs fait un carton. Première leçon, ou comment réussir son exil, enfouir très loin dans sa mémoire la voix d'un célèbre maréchal de Yougoslavie.
Najljepše vam se zahvaljujem na ovim toplim rečima koje je ove naša mlada pionirka izrekla na moju adresu. Ja se veoma radujem svake godine kada dođete kod mene da vas vidim i da mi dođete čestitati moj rođendan.
Bonjour Velibor Kolić.
Bonjour.
Alors qui est cette voix et que vous rappelle-t-elle?
Ah, ça c'est la voix, c'était la voix de notre cher maréchal Tito. Je ne suis pas avocat de diable. Parfois, moi, je dis après Tito, en Yougoslavie, à Titanic. Mais ce voix, cette apparition télévisuelle, en rythme et ma vie, je suis né au fin fond de la Bosnie. Où il n'y a eu aucune chance de voir Maréchal Tito en live. Comment dire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Jésus Tito, où je racontais cette double propagande qui s'est développée si tôt dans ma vie, c'est-à-dire mon père et le monde entier, et ma rue, et mes instituts. C'était communistitiste, et toutes les femmes, presque, mamie, maman, les tantes, les voisines, étaient religieuses. Par pur hasard, on était catholique, donc j'ai grandi entre l'image, toute petite image de maréchal Tito, très kitsch, de Jésus, pardon, très kitsch, et les grands immenses portraits de maréchal Tito qui tenaient tout ce monde, tout ce millefeuille de l'histoire yougoslave. Et il fallait des années des facs et tout ça pour comprendre qui il était, le bonhomme. Mais en tout cas, cette voix-là m'a bercé mon enfance et le début de mon adolescence.
Alors je retiens cette boutade après Tito, le Titanic, Velibor Kolić. Est-ce qu'au moment de la dislocation de la Yougoslavie et de l'émergence des nationalismes, vous et votre famille, au fin fond de la Bosnie, vous votez, on est en février 92, à ce moment-là, le référendum pour l'autodétermination en faveur de la Bosnie indépendante?
Bien sûr que oui. Alors, je vous explique le château de cartes yougoslave.
Rapidement.
Rapidement. Comment ça tombait en Slovénie, puis la Croatie, la Bosnie, deux possibilités. Soit la Bosnie est un État indépendant qui sort de la fédération, entre guillemets, yougoslave, soit une partie de Yougoslavie déséquilibrée, c'est-à-dire une partie de la Serbie. Référendum, on vote en majorité pour que la Bosnie devienne un État indépendant, sorti comme ça, que c'était qu'un prétexte pour nationaliser les Serbes pour déclencher le pire, si vous permettez, saloperie, depuis 1945 en Europe. Oui, j'ai voté pour la Bosnie.
Ja sam osjećao sam da se približava pakao ovaj i kao da su se
vratili. J'ai eu l'impression que les portes de l'enfer s'ouvraient et que nous allions tous être dévorés par des langues de feu.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
J'y comme je me souviens.
Alors Alors on est en 92, l'armée serbe a attaqué la Bosnie-Herzégovine qui vient de déclarer son indépendance. C'est le début de ce qu'on appelle la guerre de Bosnie. Et que vous arrive-t-il à vous à ce moment-là, Velibor Čelić?
J'ai travaillé à la radio avant la guerre. J'animais une émission jazz, parce que mercredi après-midi, apparemment, personne n'écoutait la radio, on pouvait passer le jazz. J'étais tout sauf un militant quelconque, j'étais tout sauf un futur soldat. Au moment où la guerre commence, je deviens le soldat. Si j'ai une excuse, je dis si j'ai une excuse, c'est pas moi qui est allé à la guerre, c'est la guerre qui est venue chez moi. Quand je dis un soldat, il faut oublier les images de cinéma hollywoodien. J'étais en jean à moitié, chemise à moitié comme ça. On défendait nos maisons, on défendait peut-être nos idées. J'avais une idée vaguement républicaine sur la Bosnie. Tout ce monde a vécu depuis toujours. Pourquoi on ne peut pas continuer? Ce sont des conneries, si vous permettez. Les plus anciennes mosquées en Bosnie, elles ont 5 siècles. Donc, l'islam, il est en Europe depuis 5 siècles, les juifs.
Vous êtes enrôlé, oui.
Un homme normalement fait est à perdre comme ça. Donc, je suis soldat, j'essaye de tirer, mais quand je tremble, je pense que mes balles ont blessé quelques étoiles et quelques branches des arbres, mais pas les soldats ennemis. Et Dieu merci.
Parce que vous, en fait, vous avez une vie quand même presque déjà à part. Vous travaillez, comme vous venez de le dire, à la radio. Vous avez publié déjà des romans. On voit en vous une sorte de relève de la littérature yougoslave, Velibor Čelić. Comment vous, l'OVNI, vous êtes un OVNI dans ces tranchées, vous traversez ce qui va advenir, c'est-à-dire une guerre de purification ethnique?
Soyons clairs, je suis purement athéiste, sans condition athéiste, mais je dis c'est un miracle comment j'ai survécu. Je dis toujours, je traverse ça avec beaucoup de peur et beaucoup d'inquiétude, beaucoup de
sidération,
colère, jusqu'à le jour où mon frère était grièvement blessé. Vous savez, les deux frères n'ont jamais en même temps dans un tranchée. Donc moi, j'étais par exemple dans le tranchée à 8h du matin et lui, il venait le soir. Donc on ne peut pas perdre dans une bataille deux frères ou deux cousins très proches. Voilà, donc je très, très grièvement blessé. Beaucoup de copains morts comme ça. J'ai compris vite fait que de notre côté, on est loin de l'armée républicaine que j'imaginais, que cette guerre devient tout sauf la mienne. Donc je déserte.
Alors il y a évidemment un acte à l'origine de cette désertion. Votre vie de soldat, vous l'avez raconté beaucoup, elle est revenue régulièrement sous votre plume. On vous imagine bien en vous lisant sans casque dans ces tranchées, en train de trembler, en train de vomir en cachette avec votre drapeau bosniaque, comme vous le racontez dans Manuel d'Exil, qui est présenté comme un roman, et pourtant. Mais il y a une scène à laquelle vous assistez, Velibor Čelić, et qui sera déterminante.
Nous, les 4 copains soldats, sommes assis devant une maison en ruine. Nous partageons un ersatz de café, un liquide brunâtre et chaud, selon un rituel bien établi. Chacun une gorgée, puis on passe la tasse à son camarade. Un calme particulier, celui qui survient après la bataille, règne autour de nous. À une dizaine de mètres, une fillette joue avec des choses invisibles pour nous, les adultes. Et elle tend un bout de bois transformé, j'imagine, en quelque chose de magnifique, un avion, un ange ou même une amie. Je la connais, on l'appelle Alma. Elle a 7 ans, elle vit de la charité brutale et versatile que lui font les ivrognes auxquels elle vend des fleurs et son sourire d'enfant dans les cafés. Subitement, je le vois tomber en silence. Elle ne bouge plus. C'est un peu étrange, un enfant qui tombe, soit il se relève tout de suite, soit il pleure, mais la petite Alma ne bouge pas. Une fois près d'elle, nous en voyons la raison. L'unique et seule balle qu'un sniper tira de haut de colline a atteint en pleine gorge cette petite tzigane diligente et frivole.
Velibor Čelić, cette scène que vous décrivez dans Manuel d'Exil est réellement vécue. C'est ce qui vous a fait basculer dans votre tête de soldat?
Une des raisons, oui, c'est des choses que j'essaye à digérer. Je ne crois pas que je veux digérer. Et j'essaye régulièrement, pas tous les jours, c'est impossible. Si on revoit ça tous les jours, on saute de cinquième étage. Moi, je quittais l'armée, j'ai quitté la guerre parce que je me suis senti sali. Je dis, on ne peut pas sortir propre de cette guerre. Il n'y aura pas ni vainqueur, il n'y aura que de vaincus. Donc voilà, je quitte. Si c'est les dernières après-midi, les dernières crépuscules que j'ai vécu dans mon beau pays qui est la Bosnie.
Fusil politique.
Alors vous avez 28 ans, Velibor Čolić, à ce moment-là, et vous voilà en France. Et l'exilé que vous êtes découvre plein de choses, notamment le foyer de demandeurs d'asile à Rennes, en France. Et puis il découvre, ou il subit peut-être, la question de la dame aux grosses lunettes qui travaille pour l'OFPRA. L'OFPRA qui souhaite que vous lui expliquiez pourquoi vous, Velibor Čolić, vous demandez la protection de l'État français et de l'asile politique.
Pour moi, chaque réfugié doit passer à l'OFPRA. Donc chaque migrant est forcément un peu la Sherazade.
Sherazade,
c'est-à-dire on doit raconter une histoire qui peut, qui va changer notre vie, oui ou non. Et l'exil, c'est comme la vraie vie, sauf qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien, c'est la langue. Je dis toujours, l'exil, c'est déplacement dans l'espace, dans le temps et dans la langue. Pour moi, la chose la plus terrible, c'était la langue.
Mais en même temps, vous racontez ça très bien dans Manuel d'exil que j'ai sous les yeux. C'est écrit roman, mais on est bien d'accord que c'est quand même bien l'histoire de Velibor Čolić.
Joker, voilà, roman.
C'est un joker, ok. Ouais. Alors, Velibor Čolić, lui, il a des ambitions. Parce que c'est un romancier yougoslave, je le disais tout à l'heure, qui, c'est ce que vous dites à la dame de l'OFPRA, vous terminez cet entretien en lui disant « J'étais un homme avant la guerre et maintenant je suis une insulte. » Une insulte qui va se poursuivre au sein de l'OFPRA. Parce que vous vous retrouvez au milieu d'autres réfugiés, irakiens, somaliens, et vous êtes obligé, comme tous ces réfugiés, de prendre des cours d'alphabétisation. Et ça, c'est une épreuve que vous ne supportez pas du tout.
25 ans après ma vie en France, on me demande assez régulièrement, vous venez d'où ? Et moi, je dis toujours, je viens de nulle part, je suis resté. L'exil, c'est rester. Rester dans un pays et dans une langue complètement inconnue pour moi. Et le peu de lumière dans ma vie que j'avais en ce moment, ma première semaine, mois, année de mon exil, tenait à mes idées complètement. Si vous permettez à côté de plaque, que je suis un écrivain, que je connais les choses, que je suis un homme bien, mais...
Que vous ne méritez pas ce statut de réfugié politique.
Non, et pas avec les... Je disais pas avec les ploucs et comme ça, mais j'ai mérité quelque chose de mieux. Je dis, moi, je connais la différence entre réalisme et surréalisme et je suis réfugié. Comment ça,
voilà, projetiez futur prix Goncourt. Et ça, ouais. ça permet de tenir.
Bien sûr. Ça, c'était le décalage entre le pitoyable condition de réfugié illettré et son rêve. Je tenais à ce rêve qui était complètement, entièrement lié à la littérature.
Alors, ces 35 leçons pour réussir son exil sont à la fois terribles et drôles. Vous expliquez comment entrer dans le métro sans payer. Enfin, c'est pas vous d'ailleurs, hein. C'est un bon conseiller qui vous donne
vrai,
les tuyaux. Voilà,
un
vrai réfugié.
Un vrai réfugié, voilà. Qui s'est débrouillé bien.
Comment faire peur à une grand-mère blanche, comment recevoir de l'aide sociale en Allemagne, etc. Mais vous racontez aussi les 5 mètres carrés dans lesquels vous vivez de façon très glauque, mais de façon assez drôle, parce que c'est votre regard. Vous en faites un récit. Vous racontez aussi les mille moyens pour vous suicider de façon méthodique, mais en même temps, vous racontez cette première nuit de suicide totalement alcoolisé. Et puis, vous faites l'inventaire un jour de votre garde-robe de réfugiés. C'est assez à hurler, mais c'est à hurler de rire, parce que vous avez tellement froid dans votre mansarde que vous prenez votre douche avec vos chaussettes, etc. Vous, Velibor Čolić, vous avez une posture qui est celle de mettre du rire sur le drame.
Dans la vraie vie, je suis à peu près comme ça. Je me considère entièrement comme un écrivain marxiste.
Ça veut dire quoi ?
Je rends hommage dans mes livres à mon philosophe préféré Marx, Groucho Marx. Je suis un grand lecteur de littérature d'exil, Stefan Zweig, ou même grand écrivain dissident russe. Comme ça, je me suis dit, tout modestement, bien évidemment, comment ça se fait que dans la littérature d'exil, il y a beaucoup de questions de l'âme, d'état d'âme, et peu de corps. Donc si vous regardez, c'est vérifiable dans mon livre « Manuel d'exil », il y a beaucoup de corps, Velibor Čolić, il transpire, il grossit. Je lui colle une coiffure pas possible, joueur de foot est-allemand. Il y a des boutons, il y a mal au genou, il tombe amoureux.
C'est Charlie Chaplin.
Oui, c'est un peu burlesque. Et c'est aussi pour dire que le migrant, c'est nous, il est comme nous.
Mais est-ce que ce réfugié bosniaque qui tombe dans l'ivresse de l'autodérision, c'est le ton hein, qui circule pendant tout ce manuel, n'est pas un personnage même dans la vie ? Est-ce que ce manuel d'exil, finalement, vous ne l'avez pas écrit pour les Français ?
Exactement. C'est un manuel d'exil destiné aux non-exilés. C'est une lettre, longue lettre, 1220-1230 pages.
Donc, il y a du cynisme.
Bien évidemment. On ne peut pas regarder autrement un réfugié. Je ne peux pas.
C'est-à-dire, acheter votre livre, c'est se faire une bonne conscience quand on est à Paris. J'ai en mémoire cette scène que vous rapportez, je ne sais pas si elle est exacte, mais ça y ressemble, entre vous et votre éditeur qui vient de publier à ce moment-là Les Bosniaques, c'est votre carnet de soldats, on y reviendra tout à l'heure, et il est en train de vous faire signer les trois prochains bouquins, hein, Velibor Čolić, et il a cette phrase, il dit... Alors, pour le prochain livre, il faut ajouter encore plus de massacres de civils. Ça marche toujours très fort, les civils, les vieillards, les femmes et les enfants qui se font massacrer.
J'ajoute un peu, c'est liberté de romancier, peu importe. Il faut dire que le monde aujourd'hui va tellement vite. Il faut aller dans la toute petite ville en France. Il m'a dit, de quoi, monsieur, vous parlez ? Mais je dis, la guerre en Bosnie. Mais il m'a dit, c'est fini tout ça, il n'y a plus rien à la télé sur cette guerre. Voilà, donc littérature peut servir là comme une sorte de sentinelle pour dire, non, ça ne veut pas dire que la grande messe de 20 heures ne dit rien, que c'est fini. Par contre, le ton que je choisis, c'est ma liberté, parce que c'est mon histoire. Je ne peux pas, ni j'ai envie de justifier au même titre que Paul Auster, qui écrit depuis 40 ans sur son quartier en Brooklyn. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, mais ça doit exister, voilà. Et je n'oserai jamais, au grand, jamais écrire dans avec le même ton sur l'exil des autres. C'est mon exil, je suis impitoyable avec moi. Ça me laisse une liberté jubilatoire d'être impitoyable avec les Français.
Ah oui ?
Avec les Français, avec les gens autour de moi, avec les grands philosophes.
Mais alors donc, votre regard sur les philosophes français et leur engagement par rapport à toutes ces questions, c'est de...
Moi, j'ai cru bêtement qu'ils sont tous un peu comme Camus et Manon.
C'est-à-dire ?
J'ai rien compris, j'étais une sorte de prétexte, une sorte de baleine de survivant. Donc, une dernière exemplaire de bébé panda ou je ne sais pas quoi vous voulez, on me montrait comme ça, je parlais mal français.
La Libye bosniaque ?
La Libye, j'imagine qu'il y a maintenant la Libye libyen, tiens, en plus ça arrive comme ça. Donc, non, pas être impitoyable, juste le ramener vers la condition de quelqu'un qui est lucide. Je comprends que mon pays il est à la mode, que dans 6 mois, ce sera l'autre pays qui est à la mode comme ça. Donc voilà, dernière chose que je souhaite à n'importe qui parmi nous, que son pays devienne à la mode. Son pays à la mode, c'est terrible.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Andy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo 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 doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right.
Lou Reed, qui marche du côté sauvage pour En sol majeur et dans les pages d'un romancier yougoslave devenu réfugié politique en France, Velibor Kolić, romancier underground himself. Prix du rayonnement de la langue et de la littérature française 2014, décerné par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Le monsieur est un oiseau, je dirais. Un migrateur, déserteur, objecteur, conscience oblige. Où l'on apprend en sol majeur que derrière un écrivain francophone peut se nicher un soldat bosniaque qui a raccroché la Kalachnikov, oui. Mais qu'est devenu cet écrivain de langue serbo-croate, présenté dans les années 90 comme le chef de file de la littérature yougoslave et qui aujourd'hui n'écrit plus qu'en français? En fait, pour le savoir, il faudrait pouvoir lire Les Bosniaques ou La chronique des oubliés, ses premiers romans écrits dans sa langue maternelle. On va voir ce que notre petite production en sol majeur peut faire pour vous.
Dis-y moja duša, volim te, volim te.
Koji se zborovite koji bi možele da ga izgovorite samo na vaši odmajčin jazik?
Volim te ljubavi, volim te ljubavi, moja ljubav.
Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle?
Là, il y a un mot que j'adore et que je trouve qu'il est mir, la paix. Mir qui veut dire aussi silence dans notre langue. Ça, c'est le mot slave. Je dis slave, c'est pas que yougoslave. Mir, on dit dans presque toutes les langues slaves, russe, tchèque, polonais. Donc, s'il y a un mot à sauver de ma langue, c'est mir.
Mais est-ce que c'est vrai, vous dites sauver, s'il y a un mot à sauver de ma langue, est-ce que c'est vrai que vous avez décidé un jour de vous détourner, d'abandonner votre langue maternelle?
Langue maternelle, on ne peut jamais entièrement quitter. Et aussi, je dis le pays natal, on ne peut jamais entièrement détester. Moi, j'ai détesté pendant quelques années. Maintenant, non, quoi. Il y a un retour de tendresse. La langue maternelle reste ma langue maternelle. La langue française, c'est ma langue littéraire. Donc j'ai deux langues, je suis bilingue. Et par contre, la langue française, je compare avec un appartement loué. Je le loue et en même temps, je peux m'organiser comme si je suis propriétaire. Peut-être je vous rendrai dans quelques années votre langue et je retournerai à ma langue. Mais je suis complètement à l'aise dans l'écriture, entièrement autodidacte. Finalement, chaque écrivain, chacun de nous parle, utilise sa propre langue. Donc je me définis parfois, j'étais là en Espagne, à Bilbao, un journaliste espagnol qui m'a dit « Comment vous définissez pour la femme? Comment vous pouvez définir Veli Borcholic ?» Mais je dis « Je suis 107 kilos d'accent.
» Voilà. Je reconnais votre style. Ça, c'est votre style.
107 kilos d'accent.
Alors, est-ce que ce mètre 95 de bel accent, est-ce qu'on pourrait l'entendre dans un extrait de votre manuel d'exil, Veli Borcholic?
Et voilà.
Egle Vasiliouskas est d'abord une blonde, ensuite une lituanienne, et enfin une étudiante en quatrième année de littérature française. Avec ses soquettes blanches, ses chemises bien repassées et ses valises carrées et propres. Nous faisons connaissance au Anna Café. Êtes-vous français, me demande-t-elle. Je lis Le Monde, attablé devant mon double crème. Parfois, et vous? Elle est spécialiste de deux marguerites, Duras et Yourcenar, et de Simone de Beauvoir. Et moi, dis-je, je suis perrectionniste, spécialiste de Georges Perec. Perrectionniste, ça ne veut rien dire. D'accord, rétorquai-je, alors je suis camusioniste. Comment, soupire-t-elle, peut-on être si peu sérieux et se prétendre écrivain? Justement, on n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux.
Extrait en sol majeur de Manuel d'exil avec vous, Veli Borcholic. Ça vous a pris du temps alors pour devenir perrectionniste, comme vous dites, c'est-à-dire lecteur de Georges Perec, ou camusioniste?
Camusioniste, j'étais depuis toujours. Je me rappelle, c'est un des moments clés dans ma petite vie. C'est que j'ai commencé à lire et que je dévorais L'étranger de Albert Camus. Je me suis dit, waouh, on peut écrire.
En français?
Non, traduction. Et deuxième moment clé, c'était quand je lis tout seul Étranger en français. Ça, c'était formidable. C'était une grande victoire pour moi, lire Étranger en VO.
Oui. C'était comment? C'est un champ de bataille, ça? Un texte de Camus?
Non, j'ai commencé doucement. J'ai commencé par bande dessinée Tintin. J'ai commencé après les bouquins pour les enfants. Et à un moment, je me suis senti capable d'attaquer. C'était un grand soulagement et une grande victoire. Je répète, il n'y a pas les petites victoires dans la vie d'un migrant.
Dans la vie d'un migrant?
Oui, toutes les victoires sont grandes. Et donc, je suis perrectionniste. C'est après, au moment où il fallait comprendre que la langue française peut devenir aussi un terrain de jeu. Quelque chose de rigolo, quelque chose de très, très, très drôle et lucide. Et là, Georges Perec, bien évidemment, il est imbattable.
Que sont devenus, Veli Borcholic, vos premiers manuscrits écrits en Bosnie?
Ah, je ne sais pas. Ma maison est détruite. Maison de mes parents, où il y avait... Et la maison d'édition à Sarajevo, elle était bombardée donc, par l'armée serbe. Donc probablement, ils sont partis quelque part au ciel avec 1,5 million de livres de la bibliothèque de Sarajevo qui était volontairement détruite par l'armée serbe en 1992. Viktor Gombrowicz quitte son pays natal. Il est sur le bateau qui le ramène en Amérique du Sud, en Buenos Aires. Il pleure ses manuscrits, Viktor, et à un moment, il dit, bah, tiens, même les pyramides d'Égypte vont disparaître un jour. Donc mes manuscrits, ça va.
Qu'aimeriez-vous qu'on lise comme épitaphe sur votre tombe?
On n'est pas obligé d'être mort pour être sérieux. Ou on n'est pas sérieux quand on est mort. Ou... Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il n'y a aucune raison que nous traitons la mort comme quelque chose d'à part, quoi. J'ai vu peut-être un peu plus de morts, plus de cadavres, si on permettait, que la moyenne. Mais c'est la vie, c'est le destin, c'est la grande histoire. Comme ça, un écrivain bosnien qui était soldat pendant 4 ans et qui dit « Parfois, j'oublie que je m'adresse aux gens qui n'ont jamais vu un cadavre.
Alors ce mot d'épitaphe me renvoie à certains de vos écrits en serbo-croate, Velibor Čolić, je pense au Bosniaque, à Jésus et Tito, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête en sol majeur sur la chronique des oubliés que vous avez écrit en 93-94, donc dans votre langue maternelle. Présentez-nous ce livre.
Un cri peut être un mot aussi qui cherche son oreille. C'était la consternation d'un homme. Voir. À ce moment-là, nous sommes à l'ouverture. La Bosnie est à l'ouverture du journal de 20h de TF1. Donc, bonsoir. Aujourd'hui, à Sarajevo, 23 morts et 15 blessés. Puis on continue. 23 morts et 35 blessés. Ces statistiques, ces litanies, ces chiffres, c'est terrible. Donc dans 5 minutes, on ne sait plus est-ce que c'est 23 blessés ou 15 morts ou comme ça. Donc j'ai essayé d'extraire encore une fois, par les moyens littéraires, extraire encore une fois le destin, le nom, le prénom de victimes et de bourreaux.
Ce sont les morts que vous avez vus de vos propres yeux en tant que soldat.
En tant que soldat, pour dire attention, c'est toujours un être humain, c'est toujours père, frère, fille, fils, maman de quelqu'un, c'est pas du tout statistique. Donc, Chronique des oubliés, c'est aussi de ce part, disons, entre guillemets, lucide d'écrivain, j'écrivais pour se souvenir de ceux qui vont être oubliés, et que c'est, malheureusement, j'avais entièrement raison.
Comment dit-on la chronique des oubliés en serbo-croate?
Chronika zaboravljeni. La porte de la maison est ouverte et nous entrons dans un silence religieux. Nous sommes assaillis par une puanteur terrible de sâtre. Dans la pièce, on désordre un homme mort, un soldat serbe. Dans son agonie, il a arraché un rideau de la fenêtre et l'a mis en tapant sur sa poitrine blessée. C'est l'été. Des mouches s'échappent de sa bouche ouverte et viennent se poser sur ma main. Je me précipite dehors et dans la cour, vomis longtemps, souillant mes bottes militaires. Quelque peu soulagé, je pénètre à nouveau dans la demeure. Sous la table de la salle de séjour, son livret militaire. Nom, prénom, âge, 37 ans, matricule postale. Domicile Pančevo, en Serbie, à côté de Belgrade. Tandis qu'on l'enveloppe d'un plastique, on contemple ses mains. Elles sont noueuses et noires, des mains de paysans. Nous sortons. Le crépuscule est un peu plus sombre et plus silencieux que d'habitude.
Velibor Čolić, est-ce que vous pourriez écrire ce même texte en français?
Certains textes sont possibles que en français et certains textes que en serbo-croate.
Expliquez-nous ça.
Par exemple, pour écrire un livre comme Manuel d'exil, triple airbag. Premier airbag, c'est le temps. C'est-à-dire entre le moment où je pose ma valise en France de réfugié et au moment que j'écris, il y avait 20 et quelques années. Donc. Deuxième airbag, c'est l'espace. Je suis suffisamment loin. J'écris ça en Bretagne. Entre Bretagne et Bosnie, il y a quelques milliers de kilomètres qui m'éloignent. Et troisième, et bien évidemment le plus important, c'est la langue. Pour moi, le livre d'exil est forcément dans la langue d'exil. Comme si cette langue française m'est dédouanée un petit peu. Et bizarrement, plus j'écris en français, plus je suis personnel. Comme si ce Velibor Čolić écrit en français n'est pas tout à fait moi. Donc Manuel d'exil, forcément dans la langue française. Le Chronique des oubliés, forcément dans la langue de serbo-croate. C'est la schizophrénie, j'imagine, de beaucoup de migrants, de réfugiés, peut-être les écrivains, mais comme ça. Là, je ne peux même pas imaginer écrire dans une autre langue, cette tristesse. Et cette capacité de l'homme à accepter et de vivre avec le mal qui est énorme.
Écrire après Sarajevo, c'est évidemment une question que vous vous êtes posée, comme d'autres se la sont posées au moment après Auschwitz.
Oui, je me suis posé à quoi ça sert jusqu'à ce moment que je me suis dit, si tu n'écris pas Chronique des oubliés ou les Bosniaques avec le nom prénom, qui va faire? Chez nous en Bosnie, comme j'imagine d'ailleurs dans le monde, on dit on meurt 2 fois, première fois avec notre mort physique et deuxième fois quand on est oublié.
Votre première vie est effacée, vous le dites souvent, Velibor. Oui. Vos amis, vos amours, votre terre, votre maison, vos premiers manuscrits. Est-ce que l'écrivain yougoslave est lui aussi mort définitivement?
Non, l'écrivain yougoslave n'est pas mort. L'Yougoslavie, il est dans mes livres. Je visite, entre guillemets, dans la langue française, mon pays. L'écrivain yougoslave a juste changé la langue. C'est moins confortable d'être écrivain de Balkans que l'écrivain américain. Mais je accepte mon destin. Et
donc vous êtes toujours un écrivain des Balkans, même si vous écrivez en français.
Une grande
donc,
partie...
Vous avez fait peau neuve, mais en fait, il y a quand même toujours derrière cette peau neuve d'écrivains francophones, français peut-être bien un jour, on va voir, on va en reparler après. Il y a toujours cette première peau.
Ouais, je suis persuadé, je sais que la terre natale, même si on les déteste, que la terre natale nous forge à jamais. L'homme qui vit dans une autre langue et aussi l'écrivain dans une autre langue, mais il n'a jamais vraiment quitté son pays tragique.
Mais c'est devenu un personnage, vous êtes devenu un personnage, bien c'est-à-dire sûr, le personnage d'un exilé, réfugié politique.
Bien sûr, comme je suis romancier, je n'ai pas le droit d'abandonner cette petite gamine qui s'est fait. Je reviens vers cette proverbe, qui se souvient de petite tzigane de 7 ans qui s'est fait tuer avant 3 ans? Nous, pendant 5 minutes. Grâce, merci qui? Merci à la littérature. Donc,
donc vous croyez en la littérature?
Oui, je crois entièrement, c'est peut-être bête. Et alors, peut-être parfois c'est trop...
En sachant que la littérature ne peut rien contre la guerre.
Oui, mais elle peut faire plein de choses pour l'humanité.
Quoi, par exemple?
Je pense, 3 secondes de silence qu'on a partagé avec la petite tzigane, on était pendant ces 3 secondes l'humain.
Quelle idée, rapidement, vous vous faisiez de la France avant de venir...
Regarde l'Yougoslavie, la France, c'est Paris. Tour Eiffel, la Mairie Poulain, comme ça. Donc, aucune idée précise. D'ailleurs, tous les cousins disaient, t'es sûr? Mais d'ici, je vais aller en France. Sûr. Il n'y a pas de business là-bas.
Ils seront 10 à table pour un concours.
Et pour déjeuner, ils sont toujours assis à la même place. C'est la tradition, leur nom est gravé sur chaque chaise. Jean-Michel, qui est le maître d'hôtel, est en train de peaufiner les derniers détails. Il va installer dans quelques instants les couverts en vermeil. Ce
sont le prix Goncourt 1984 a été attribué.
Toujours la même bousculade. À l'annonce du prix Goncourt, la presse se précipite. 200 journalistes environ se précipitent dans la salle sur le podium.
1985 a été attribué.
Les moments historiques. 3, 2, 1.
Oui, vu de Google Earth, ce qui fait la France, c'est le Beaujolais nouveau, le Moulin Rouge, où autrefois les bourgeois allaient s'encanailler pour voir les femmes danser le French Cancan, et puis c'est évidemment le prix Goncourt. Est-ce que vous êtes devenu un familier de cette France-là, Velibor Čolić?
Cette France-là, oui, on est...
Vous êtes vin, vous?
Non, pas spécialement vin. Si ce liquide, j'ai rien contre le liquide rouge, blanc et rose... Mais tout ce qui est autour, moi, ça me gonfle.
C'est quoi qu'il y a autour?
Est-ce qu'il est chambré? Est-ce qu'ils sont sous bois, post-bois, post-apocalyptique?
C'est de la littérature, ça?
C'est littérature qui m'intéresse pas. C'est littérature blablabla, mais je préfère le... Si je suis devenu français, à tel point que récemment, à l'aéroport de Francfort, il y avait 2 personnes qui râlaient. 2 Français, hein, Jean-Paul et moi. Voilà.
Est-ce que cette intégration que vous avez l'air de nous vendre comme ça, ouais, et qui finalement, on l'a sous les yeux quand même, elle est publiée chez Gallimard, cette intégration, est-ce que ce n'est pas une comédie au fond? Est-ce que vous n'êtes pas l'autre, vous n'êtes pas un autre que celui que vous nous faites croire?
Oui, il y a un peu de comédie. D'abord, demander à quelqu'un à s'intégrer, c'est tragicomique. Intégrer à quoi, comment et qu'est-ce qui se passe? On demande trop quoi. Pour moi, intégration, c'est quoi? Moi, je fais 95% de boulot. Faites, s'il vous plaît, 5%.
Donc ça veut dire quoi, concrètement, 95% de boulot, c'est-à-dire vous avez appris la langue française, au point d'écrire des romans, etc. Et les 5% de travail que voudriez que les Français fassent vers vous, ce serait quoi, par exemple?
C'est accepter l'homme tel quel, avec son accent et avec son nom à coucher dehors. C'est une grande bataille que je mène. Parce que je n'ai même pas dit à mon père que notre nom... Oui, je suis très fier de notre nom de famille, Tcholich. Prononcer à la française Kolik, ce n'est pas très sexy. Parfois, si on insiste, Kolik, Kolik, moi je dis, oui, je m'appelle Al, Al Kolik.
Est-ce que Velibor Tcholich est séduit par la nationalité française?
J'ai essayé une fois, je vais essayer encore une deuxième fois.
Ça ne marche pas?
C'est plus facile pour un joueur de foot que pour un écrivain. Là où je suis un peu en colère, où je trouve humiliant de deux sens. Humiliant pour moi, je parle au mon nom, attention là, humiliant pour la République française, qu'on m'a demandé à remplir un truc comme si je postulais d'être membre de Rotary Club, combien je gagne. Et je dis, écoutez madame, ça se passe à la préfecture de Rennes, comme j'habite en Bretagne, je ne veux pas entrer dans le Rotary Club, je veux intégrer une nation. Donc, il regarde. Mais je vais essayer encore une fois. Et l'écrivain, ça aide pas. J'ai le problème. Donc, il faudrait prendre les pages. Et la quatrième page, le travail. Avec tout le respect, genre magasinier à H1 de 2009 à 2012. Moi, le stupide, j'ai mis tous mes romans. On m'a dit, qu'est-ce que c'est ? C'est pas le travail. Je dis, si, c'est mon roman, c'est pas le travail.
Il y a des efforts à faire sur la question administrative, mais vous savez, c'est le côté français, le côté français un peu difficile. Qu'est-ce que vous avez souhaité raconter dans cette comédie pessimiste que vous avez intitulée Ederlesi ?
Ederlesi, c'est la fête de la Saint-Georges, 5 mai. C'est un mot d'origine turque. C'est où le Tzigane et les Roms vont dans la première rivière là, qu'ils se lavent et après c'est la grande fête. J'ai raconté une histoire d'un peuple qui m'est particulièrement cher, c'est les Tzigane et les Roms de l'Est. Une sorte d'opposition de deux mondes, le monde rêvé, artistique, ivre, enchanté des Tziganes et l'Europe avec toute sa brutalité. Donc c'est un voyage du sud de l'Europe, Macédoine jusqu'à la plage de Calais, qui dure un siècle et à chaque fois ponctué par les massacres de ce peuple, de saltimbanques, de voleurs de poules.
Mais comme vous vous méfiez des bons sentiments, vous ne faites pas de ces tziganes des êtres absolument parfaits et angéliques.
Aucune raison, parce qu'ils ne sont pas. C'est un peuple, on dit chez nous, le peuple tzigane, c'est le peuple qui n'aime pas dormir et qui empêche les autres de dormir. Ils ont un regard complètement différent sur la possession. Leurs maisons sont ouvertes. Donc, si votre maison est fermée, ils essayent de l'ouvrir pour qu'on soit en légalité. Les commérages racontèrent que, malgré son nom, Bayramovski, à base, était turc. C'est à quoi il répondait. Je suis comme Humphrey Bogart, mes cousins, ma nationalité c'est ivrogne. Il déclenchait alors des rafales de rire dans les bistrots de Naskos et la vie, en récitant en russe son poème préféré, Do svidanya, drug moi, do svidanya. Au revoir, mon ami, au revoir. Et en écartant ses mains comme s'il était ce célèbre Christ de Rio. Il y a trois preuves, disait-il, que Jésus était un tzigane. La première, il a transformé l'eau en vin. La deuxième, il n'a jamais vraiment travaillé, il a juste traîné un peu partout. Et enfin la troisième, s'il a réussi à faire quelque chose, c'était toujours un miracle.
Le tzigane, en fait, c'est l'autre. Ça a toujours été l'autre, même dans votre enfance, ouais. Dans votre Croatie d'origine, Velibor Tcholić.
Oui, le tzigane, c'est l'autre, celui qui fait peur, qui fascine en même temps. J'ai eu la chance, maintenant je mesure ma chance, de grandir dans un pays où il y avait tout ce beau monde, c'est mélangé.
Milan Kundera, qui est devenu un monument hein, de notre paysage littéraire français, c'est un de ces auteurs tchèques à l'origine que vous aimez bien, Vilibor,
je le
sais.
J'adore.
J'imagine que vous vous souvenez de son roman, un de ses premiers romans, La plaisanterie. Je le redis rapide, l'histoire d'un militant communiste tchèque qui est exclu du parti communiste pour avoir écrit au dos d'une carte postale à sa chérie une phrase un peu au second degré qui disait « L'optimisme est l'opium du genre humain ». Et Kundera avait finalement cette manière de dire que les pays des Balkans étaient un peu trop pris dans l'histoire, la grande histoire. Est-ce que vous, aujourd'hui, au vu de votre trajet, vous avez l'impression de vous être éjecté définitivement de l'histoire ?
Oui et non. Et je reviens. Le pays natal nous forge. On ne peut pas... Et après que
l'histoire est passée.
L'histoire est passée, mais elle ne s'est pas arrêtée. Il y a des
Vous voulez ressauter dans le train de l'histoire ?
Oui.
De quelle manière ?
Dans quelle manière ? Tout banalement, référendum catalan, voilà, concrètement. Et le leader serbe, donc il y a la République serbe de Bosnie, qui dit oh, « je regarde et je prends les notes ». Pour le futur référendum. Et là, on m'a demandé tout de suite qu'est-ce que je pense. Je dis, il ne faut pas qu'un référendum se transforme en référent doum-doum, comme chez nous.
Doum-doum.
Ce sont comme les balles, doum-doum. Voilà. Donc voilà, donc, l'histoire ne s'est pas arrêtée dans le Balkan. Donc voilà, moi je perds pour mon pays, un peu pour l'Europe. Donc,
on prend des notes du côté serbe et vous observez tout ça.
Oui, j'observe. Donc je ne peux pas sortir de cette histoire parce que l'histoire de Bosnie concrètement, elle n'est pas finie, elle n'est pas digérée. Donc je reviendrai différemment dans mon prochain roman que je pense finir en 2018. Et au moment où Paul Auster arrête d'écrire sur le Brooklyn, moi j'arrêterai d'écrire sur la Bosnie. C'est un défi pour les deux. Je présente, j'ai rien contre Paul Auster.
On salue Paul Auster.
On salue Paul Auster.
En sol majeur, @rfi.fr.
À savourer dès ce soir, Manuel d'Exil, comment réussir son exil en 35 leçons et son tout récent, Guerre et pluie. Vélibor Kolitch est publié chez Gallimard. On va refermer votre en sol majeur avec quelque chose qui devrait vous mettre du baume au cœur, Šaban Bajramović.
Šaban Bajramović, oui.
Qu'est-ce qu'il vous rappelle, lui ?
C'est Ray Charles Tsigan, ouais. Je me suis inspiré un petit peu de sa vraie vie. C'est un personnage principal de mon roman Ederles. Il porte plusieurs prénoms parce qu'il revient, mais toujours le même nom, Bajramović.
Jego drika pala daje pivo i sta me zlava. Daje maro mange tu ci perse se kere kawa maro daje maro mange tu ci perse se kere kawa.
Et c'est avec ce Ray Charles Tsigan qu'on vous salue bien bas en sol majeur. Caroline Filliette, Laura Pinto, Théo Raison, Yasmine Chouaki, tout ça est à potasser sur Pure Radio. Votre appli chérie. Demain, on vous embarque sur la felouque pleine d'humour de Reda Seliki. Dans un instant, votre journal, suivi de tous les cinémas du monde.